Le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noires pinèdes, séparées par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin, qui serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel, et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre, et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. « Celui-là, dit-il, c'est tête rouge. » À sa droite, brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de trois terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant, comme les trois volants de la pèlerine de fourrure de Mademoiselle Guimard. « Celui-là, dit le paysan, c'est le Taoumé. » Puis, pendant que nous admirions cette masse, il ajouta « On dit aussi le tube. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda mon père. « Ça veut dire que ça s'appelle le tube, ou bien le Taoumé. » « Mais quelle est l'origine de ces mots ?»« L'origine, c'est qu'il a deux noms, mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez deux noms, et moi aussi. » Pour abréger cette savante explication, qui ne me parut pas décisive, il fit claquer son fouet aux oreilles du mulet, qui répondit par une pétarade. Au fond à droite, mais beaucoup plus loin, une pente finissait dans le ciel, portant sur son épaule le troisième piton de roche, penché en arrière, qui dominait tout le paysage. « Ça, c'est Garlaban. Aubagne est de l'autre côté, juste au pied. » « Moi, dis-je, je suis né à Aubagne. » « Alors, dit le paysan, tu es d'ici. » Je regardais ma famille avec fierté, puis le noble paysage avec une tendresse nouvelle. « Et moi, dit Paul inquiet, je suis né à Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici ?»«
Un peu, dit le paysan. Un peu, mais guère. »
Paul, vexé, se replia derrière moi. Et comme il avait déjà de la conversation, il me dit à voix basse « C'est un couillon !» On ne voyait pas de hameau, pas une ferme, pas même un cabanon. Le chemin n'était plus que deux ornières poudreuses, séparées par une crête d'herbe folle qui caressait le ventre du mulet. Sur la pente qui plongeait à droite, de beaux pins dominaient une épaisse broussaille de chênes kermès qui ne sont pas plus hauts qu'une table, mais qui portent de vrais glands de chêne, comme ces nains qui ont une tête d'homme. Au-delà du vallon se dressait une colline allongée. Elle avait la forme d'un vaisseau de guerre à trois ponts, en retrait les uns sur les autres. Elle portait trois longues pinèdes, séparés par des appiques de roches blanches.
Celui-là, dit le paysan, c'est les barres de Saint-Esprit.
À ce nom, si clairement obscurantiste, mon père fronça un sourcil laïque et demanda :
Ils sont très calotins dans le pays ?
Un peu, dit le paysan.
Vous allez à la messe le dimanche ?
Ça dépend. Quand nous avons la sécheresse, moi je n'y vais pas,
jusqu'à temps qu'il pleuve. Le bon Dieu a besoin qu'on lui fasse comprendre.
Je fus tentée de lui révéler que Dieu n'existait pas, ce que je savais de très bonne source. Mais comme mon père se taisait, je gardais modestement le silence. Je m'aperçus soudain que ma mère ne marchait pas très facilement à cause des talons Louis XV de ses bottines à boutons. Sans mot dire, je rejoignis la charrette et réussis à en tirer la petite valise que l'on avait glissée sous les cordes à l'arrière du véhicule.
« Que fais-tu ? » dit-elle surprise.
Je posai la valise à terre et j'en tirai ses espadrilles.
Elles n'étaient pas plus grandes que les miennes.
Elle me fit un merveilleux sourire de tendresse et dit « Gros bêta, on ne peut pas s'arrêter ici.
Pourquoi ? Nous les rattraperons. »
Assise sur un rocher au bord de la route, elle changea de chaussures, sous les yeux de Paul, venu assister à l'opération qui lui parut assez audacieuse du point de vue de la pudeur, car il regarda de tous côtés pour s'assurer que personne n'avait pu voir les bas maternels. Elle nous prit par la main et au pas de course, nous rejoignîmes la charrette où je replaçai le précieux bagage. Comme elle était petite maintenant! Elle avait l'air d'avoir 15 ans, ses joues étaient roses et je vis avec plaisir que ses mollets paraissaient plus gros. Le chemin montait toujours et nous approchions des pinèdes. À gauche, le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant. Le paysan disait à mon père
« Celui-là aussi, il a deux noms. »
On lui dit « le Vala » ou bien « le ruisseau ».
« Oh oh !» dit mon père charmé. « Il y a un ruisseau ?»«
Bien sûr !» dit le paysan. « Et un beau ruisseau !»
Mon père se tourna vers nous. « Mes enfants, au fond du vallon, il y a un ruisseau !» Le paysan se tourna à son tour et ajouta
« Quand il pleut, bien entendu !»
Les terrasses de ce vala étaient couvertes d'oliviers à 4 ou 5 troncs plantés en rond. Ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas les noms de ces arbres, mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était de la baouco. On aurait dit du foin séché, mais c'est là son teint naturel. Au printemps, pour participer à l'allégresse générale, elle fait un effort et verdit faiblement. Mais malgré cette pauvre mine, elle est vivace et vigoureuse, comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeaient de cette baouco et qui figuraient des oliviers en miniature. Je quittai le chemin, je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur. C'était le thym qui pousse au gravier des garrigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile. J'en arrachai quelques brindilles et je rejoignis la charrette en les tenant sous mes narines.
« Qu'est-ce que c'est ? » dit ma mère.
Elle les prit, respira profondément. « C'est du thym frais, dit-elle. On fera des civets merveilleux. »«
Du thym ?» dit François avec un certain mépris.
« Il vaut bien mieux le pèbre d'ail. »
Qu'est-ce que c'est ?
C'est comme une espèce de thym et en même temps, c'est une espèce de menthe. Mais ça ne peut pas se dire. Je vous en ferai voir.
Il parla ensuite de la marjolaine, du romarin, de la sauge, du fenouil. Il fallait en bourrer le ventre de la lièvre ou bien le hacher fin, avec un gros bout de lard gras.
Ma mère écoutait, très intéressée.
Moi, je flairais les brindilles sacrées et j'avais honte.
Le chemin montait toujours, franchissant de temps à autre un petit plateau.
En regardant en arrière, on voyait la longue vallée de l'Uvonne sous une traînée vaporeuse qui allait jusqu'à la mer brillante.
Paul trottait de tous côtés. Il frappait avec une pierre sur le tronc des amandiers et des volées de cigales fuyaient, vibrantes d'indignation. Il y eut une dernière côte, aussi rude que la première. Grâce à une volée de coups de trique, le mulet, sous un dos en arc de cercle qui se détendait brusquement et hochant la tête à chaque coup de collier, tira par saccade la brinque-ballante charrette dont le chargement balancé comme la tige d'un métronome arrachait au passage des branches d'olivier. Mais il s'en trouva une plus forte que le pied de la table qui tomba sur la tête résonnante de mon père stupéfait. Tandis que ma mère tâchait de conjurer la montée d'une bosse en pressant sur l'ecchymose une pièce de 2 sous, le petit Paul dansait en riant aux éclats. Pour moi, je ramassais le pied coupable et je constatais avec plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation facile. À mon père, qui faisait la grimace sous la pressante effigie de Napoléon III, je courus porter cette consolation. Nous rejoignîmes l'équipage, arrêté dans un bosquet en haut de la côte, pour laisser souffler le mulet martyrisé. Il soufflait en effet à grand bruit, élargissant ses côtes maigres qui avaient l'air de cerceaux dans un sac, et des fils de bave transparentes pendaient de sa longue babine de caoutchouc. Alors, mon père nous montra de la main gauche, car il frottait toujours son crâne endolori, une petite maison sur le coteau d'en face, à demi cachée par un grand figuier. « Voilà, » dit-il, « voilà la Bastide neuve. » Voilà l'asile des vacances. Le jardin qui est à gauche est aussi à nous. Ce jardin, entouré d'un grillage rouillé, avait au moins 100 mètres de large. Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles enchevêtrées. Mais cette forêt vierge en miniature, je l'avais vue dans tous mes rêves. Et suivi de Paul, je m'élançai en criant de bonheur. La gloire de mon père, Marcel Pagnol, 1943.